Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le Club des idées du grain. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. À propos des relations que la société française entretient avec la police, on serait tenté de parler de yo-yo, tant celle-ci varie au gré de l'actualité. Début 2015, la France applaudit ses policiers après les attentats de janvier. Printemps 2016, la voilà qui les siffle pour répondre aux interpellations musclées des manifestants contre la loi travail. Octobre, c'est l'indignation après l'agression de 4 fonctionnaires à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Symptôme, selon les forces de l'ordre, d'une haine anti-flic à laquelle le gouvernement répond via la loi de sécurité publique, tout juste adoptée par le Parlement. Février, l'interpellation d'un jeune homme à Aulnay-sous-Bois provoque un mouvement plus large de protestation contre les violences policières. À la une de Libération, des personnalités s'engagent pour dénoncer ces violences. Cette succession d'événements, si elle crée de fortes tensions, ne semble pourtant pas se traduire par une remise à plat du rôle délégué aux forces de l'ordre et des pratiques qu'elles mettent en œuvre. Question que nous allons donc justement poser ce soir dans notre Club des idées. Le maintien de l'ordre légitime-t-il certaines violences ? Et cette question, nous allons la poser à Ludivine Bantigny. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Rouen. Sylvain Kahn, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Historien et géographe, professeur à Sciences Po. Sciences Po où vous croisez peut-être de temps en temps Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Parce que vous y enseignez la théologie politique. Et Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Le tour du monde des idées du lundi au vendredi sur France Culture aux alentours de midi moins 10.
La sécurité est d'abord une responsabilité de l'État. La sécurité doit être égale pour tous. La sécurité dépend pour une large part des relations de confiance établies entre les services en charge de la sécurité et la population.
Une foule compacte qui remercie policiers et gendarmes.
J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de tric. J'aurais pas cru il y a 30 ans.
La police française est fatiguée. Elle est soumise à une grosse pression dans différents domaines. Terrorisme, ordre public, lutte contre la délinquance et les différents plans.
On veut du matériel pour travailler, on veut de la sécurité. C'est pas normal qu'aujourd'hui on se fasse caillasser, on se fasse brûler.
Les policiers n'avaient pas les mêmes règles d'utilisation de leurs armes en cas de légitime défense que les gendarmes, donc on harmonise l'ensemble des dispositions.
À Aulnay-sous-Bois, 4 policiers sont en garde à vue après une interpellation violente d'un jeune homme jeudi soir. Ce dernier a été hospitalisé, il dit avoir été violé.
Il y a d'autant moins de problèmes qu'il y a plus de policiers sur le terrain. Et la façon dont on avait supprimé ces dernières années, notamment dans les quartiers les plus sensibles, les policiers du quotidien, pour ne faire qu'une police d'intervention, c'est-à-dire une police qui était sous-dotée en effectifs, n'était absolument pas la bonne politique. Ce dont ont besoin nos quartiers, ce n'est pas de moins de policiers, c'est de plus de policiers.
Voilà, un mixage signé comme chaque semaine Jean-Christophe Francis, dans lequel vous aurez peut-être reconnu, au début c'était Lionel Jospin, à la fin c'était l'actuel ministre de l'Intérieur Bruno Leroux, et puis un certain nombre de séquences de l'actualité de ces deux dernières années qui témoignent de quoi, Sylvain Kahn, d'une forme d'ambiguïté de la société française à l'égard de sa police, c'est-à-dire qui l'aime par moments, qui la déteste par d'autres, ou bien est-ce que ça serait plutôt révélateur d'une forme de fracture de la société, c'est-à-dire des personnes qui se sentiraient protégée par la police et puis une autre partie de la société qui se sentirait, elle, plutôt menacée par cette police.
Le dernier point de votre énoncé, oui, certainement. Si vous le permettez, je voudrais rebondir justement sur le montage que vous avez diffusé en tout début d'émission, parce que c'est sans doute fait exprès, mais c'est très intéressant de commencer par Lionel Jospin et de terminer par l'actuel ministre de l'Intérieur du gouvernement qui, d'une certaine manière, est dans le prolongement de ce qu'a été le gouvernement de Lionel Jospin entre 97 et 2002. C'est les mêmes équipes. Leroux, Hollande, Jospin. Et ce faire de ma part, le discours de Jospin est peut-être ou probablement le fameux discours de Villepinte, celui dans lequel on avait dit à l'époque, hein, tout le monde s'en souvient, qu'il signait la réconciliation de la gauche avec la sécurité, hein, parce que pendant très longtemps, on a dit la gauche est nulle en sécurité, elle est incapable de faire quoi que ce soit. Ce procès, entre guillemets, avait continué pendant les deux septennats de François Mitterrand. Et avec Jospin et Chevènement, quelque chose de différent s'était passé. Et nous le savons tous, ce que Jospin a fait, entre autres, du point de vue de la sécurité et du ministère de l'Intérieur, Chevènement d'abord et Vaillant ensuite, il y a peut-être un troisième, c'est cette fameuse police de proximité dont nous entendons toujours dans votre montage qu'elle est rappelée par Bruno Leroux comme étant quelque chose qui aurait dû rester. Ça a été supprimé par Sarkozy
en 2003. Il faut davantage de policiers dans les quartiers.
Oui, depuis qu'Hollande et la gauche socialiste sont revenus au pouvoir, ils n'ont rien fait de ce point de vue-là. Hein. Et donc, moi, pour répondre à votre question, ce qui me frappe beaucoup, finalement, c'est plutôt la manière, me semble-t-il, dont le Parti socialiste, on le voit bien grâce à votre montage et à votre son, on voit bien l'évolution de 1997 à nos jours, c'est-à-dire que finalement, elle s'est laissée acculturer à cette idéologie très sécuritaire qui est celle de la droite.
Donc vous, Sylvain Cahn, vous entendez davantage l'illustration d'une évolution de la gauche, en tout cas de la gauche du Parti Socialiste, par rapport à ces questions-là. Anastasia Colosimo, est-ce que vous y entendez la même chose ou est-ce que vous y entendez peut-être, alors comme je le suggérais, cette idée d'aller-retour de plus en plus fréquent entre une adhésion à ce que représenterait la police et un rejet également de ce qu'elle représente, soit des pratiques aussi qu'elle véhicule.
Alors, en fait, je pense qu'en remontant un peu plus longtemps dans l'histoire, on peut se rendre compte qu'il y a quand même des cultures différentes vis-à-vis de la police. On sait qu'il y a des pays qui ont un rapport à leur police qui sont différents. En France, le gendarme, c'est ce qu'on voit avec Guignol, c'est vraiment la figure gênante, l'idiot, le simplet, etc. Donc, il y a quand même un rejet de la police en France, je pense, culturellement, plus que dans d'autres pays. Il y a aussi un niveau de violence en France, on a tendance un peu à l'oublier, parce que la Ve République a l'air d'un régime assez stable, mais il y a une violence de rue en France qui est inimaginable dans son histoire, et des conflits de rue qui sont extrêmement forts. Et donc du coup, il y a cette perspective historique sur ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, il y a l'impression d'une hyper-accélération, puisque on a l'impression que tout le monde prend des coups. Ce qu'on voit, c'est en tout cas évidemment le fait que les policiers se sentent absolument acculés à chaque fois qu'on les accuse de quelque chose, et une population qui est celle des banlieues a l'impression d'être effectivement pas traitée comme les autres citoyens, parce que les autres citoyens sont protégés alors que eux se sentent menacés par la police. La situation, elle est très grave, elle est de plus en plus grave parce que les événements sont de plus en plus graves. Il y a eu Viry-Châtillon pour les policiers qui a constitué un véritable traumatisme. On a eu l'impression, et c'est ce qui a été dit, voilà, on a passé un pas dans la violence, et là avec l'affaire Théo et avec l'affaire Adama Traoré avant, effectivement, on a encore cette impression, voilà, on est passé à un niveau supérieur. De tous les côtés, on a l'impression d'être passé à un niveau supérieur, et l'impression qu'on a, et d'ailleurs c'est un peu ce qui se passe dans la presse, c'est tout d'un coup vraiment deux camps qui se forment, et l'impossibilité de trouver un langage commun au milieu de ça.
Vous partagez cette impression, Ludivine Bortigny ?
Pour partie, mais pas seulement. Bon, déjà, la première chose que je voudrais dire modestement, c'est que pour bien parler de ce sujet, autour de cette table, ça aurait été bien qu'il y ait aussi des personnes qui sont justement directement confrontées aux violences policières, et parfois...
Alors, les policiers, vous voulez dire
J'ai parlé juste 25 secondes pour l'instant, donc je vais aller jusqu'au bout. Et puis vous rétorquerez comme c'est votre habitude, c'est normal. Donc oui, parce que ce qui a été vraiment tout à fait frappant lors de la dernière période, et en écho à ce que disait Anastasia, c'est que c'est plus uniquement des jeunes de banlieue ou des populations en permanence visées. Et encore une fois, on a des enquêtes, l'État a même été condamné, c'est très très clair, on a des chiffres, on a des statistiques qui sont imparables, hein, sur les pratiques discriminatoires et aussi les pratiques violentes, parce que le viol par une matraque télescopique de Théo, en fait, il s'inscrit, et de nombreux témoignages le montrent aujourd'hui, il s'inscrit dans un type de pratique qui est de plus en plus banalisé, c'est-à-dire des violences qui sont aussi de nature sexuelle et qui visent à humilier.
Enfin, statistiques imparables, on manque justement en tout cas de véritables études institutionnelles, même s'il y a,
voilà,
y a eu y des
y a
rapports
par exemple le rapport de la sujet. Commission nationale consultative des droits de l'homme qui montre très clairement que 80% des jeunes noirs dans cette enquête ont été contrôlés au moins 5 voire 10 fois au cours de l'année écoulée, et que 85% des autres, c'est-à-dire des blancs, n'ont quant à eux jamais été contrôlés. Mais ce que je voulais dire quand même à ce sujet, c'est que ce qui s'est passé avec l'opposition à la loi travail, c'est que désormais il y a aussi des militantes et des militants blancs, des syndicalistes, des gens qui venaient parfois en famille, comme à la manifestation du 1er mai, qui ont été aussi confrontés à des violences policières qui ont été particulièrement graves. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que l'intitulé de l'émission lui-même, qui parle de la violence et du coup de la violence légitime, fait forcément écho à la fameuse phrase de Max Weber qui est en fait jamais creusée, c'est-à-dire autour du monopole de la violence légitime. Ce qu'on montre bien...
Qui est détenu par l'État.
Voilà, donc l'État étant défini comme ayant le monopole de la violence légitime. Mais ce qui est intéressant, et de nombreux chercheurs le montrent, c'est que justement, Weber lui-même ne définit jamais ce que cette légitimité, et qu'en réalité, le droit lui-même présente un laconisme, voire une carence extrêmement importante. C'est-à-dire que le droit ne dit rien sur le périmètre même de cette légitimité. Ce qui explique beaucoup de non-lieux, beaucoup d'acquittements, et là, la liste serait longue, de Ziad Benah, évidemment, Bouna Traoré, Ali Ziri, Amine Bentouti, Rémi Fraisse, évidemment, Lamine Dieng, Adama Traoré, autant de victimes de ces violences qui ont débouché sur des non-lieux ou des acquittements.
Voilà, c'est justement le périmètre de cette légitimité qui est aussi l'objet de cette discussion de ce soir. Juste avant de vous passer la parole, Brice Couturier, je précise que dans le cadre du Grain à Moudre, nous avons déjà consacré des émissions à cette question des violences policières et des rapports qu'entretient la société française avec la police, avec voilà des plateaux comme on essaie de le faire, le plus diversifié, le plus pluraliste possible. Et voilà, là ce soir, on avait envie aussi de vous entendre et de réfléchir peut-être d'une manière un peu plus, disons, politique à ces questions. Alors Brice Couturier.
Et alors, quand on dit que tout le monde déteste la police, on vient d'entendre des manifestants qui sifflaient qui criaient ce slogan. Non, tout le monde déteste pas la police. C'est simplement une fraction de l'extrême gauche qui déteste la police. Mais la population n'a pas changé dans son attitude par rapport à la police. Quand on prend l'époque où on a manifesté contre les attentats et qu'on a remercié les policiers de s'interposer entre eux et nous. Non, c'est une petite minorité qui siffle la police. Et si vous voulez savoir où en sont les rapports entre la police et la population, bah, prenez le dernier sondage du Cevipof qui date de, on est à Sciences Po, donc Cevipof. C'est Sciences Po, qui date de janvier 2017. Donc il est tout frais. C'est le sondage qui concerne le niveau de confiance de la population envers les institutions. Qu'est-ce qu'on y voit dans ce sondage? Que les hôpitaux arrivent en tête avec 83%, l'armée en deuxième avec 82%, les PME, figurez-vous, en troisième avec 81%, et en quatrième, c'est la police. 78% des sondés par le Cevipof estiment avoir confiance en la police contre 21% qui sont pas d'accord. Alors je sais bien que dans les médias, cette tendance est assez peu représentée. Ça explique peut-être pourquoi d'ailleurs les médias sont extrêmement impopulaires auprès de la population, puisqu'on voit que les médias n'obtiennent que 24% d'opinion de gens qui lui font confiance contre 75% qui lui font pas confiance.
Ça veut dire que pour vous, Brice Couturier, on surestime la défiance
Bien entendu, mais on est là pour ça. On est là pour ça, évidemment. On est là pour essayer de faire croire que les policiers sont l'objet d'une opprobre générale. L'objet simplement des délinquants, évidemment, mais pas de la population dans son ensemble. Et ce sondage le prouve encore une fois. Ils sont quatrième, la police est quatrième dans l'ordre de confiance envers les institutions, avec 78% d'opinions favorables.
Cela dit, à ce sujet, il y a Jacques de Maillard, je ne sais pas si vous connaissez, qui est quelqu'un qui est du CESDIP, directeur adjoint du CESDIP, Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. C'est vraiment un organisme de recherche qui travaille justement sur ces questions de la police et qui signe une tribune dans Le Monde daté d'hier, et qui dit notamment ceci, justement sur l'idée de la défiance. Il dit « Les policiers ont tendance à dire que la population française est intrinsèquement hostile à la police. » Alors lui dit non, ça n'est pas tout à fait vrai.
À 78%, c'est pas vraiment
bien
vrai.
Bien sûr, voilà. Hein, mais il ajoute cette hypothèse. Il parle d'hypothèse. Il dit « Mais l'hypothèse que l'on peut faire, c'est que les modes d'action de la police contribue à forger cette défiance. C'est-à-dire, il y a quand même un problème aujourd'hui en France sur les modalités dans lesquelles la police exerce son pouvoir. Anastasia Colosimo, est-ce que c'est peut-être là-dessus qu'il faut porter la discussion, c'est-à-dire peut-être moins sur la légitimité de l'institution que sur les pratiques qui sont menées par ceux qui représentent cette institution?
Alors, pour moi, la question des pratiques, c'est vraiment celle de la police de proximité. Il me semble qu'il y a un grand débat là-dessus, en tout cas. Quand on parle de police de proximité, on parle, en fait, c'est pas seulement une invention récente, hein, c'est dans l'histoire du monde, le fait que les personnes qui sont garantes de l'ordre sont des personnes qui vivent dans les quartiers dont elles gardent l'ordre. La disparition de la police de proximité, évidemment que ça change complètement les modalités d'intervention et d'interaction avec la population, parce que, et il y a même des choses aussi bêtes, le fait que dans les banlieues, les policiers soient en voiture. Et donc, du coup, le fait d'être en voiture, ça ne permet pas de s'arrêter, de discuter, de voir. Vous voyez, même en termes de temporalité, en termes spatio-temporels, je pense...
Ça induit une forme de confrontation dès le départ.
Oui, enfin, en tout cas, je pense que ça ne favorise pas du tout, effectivement, une manière distillée de maintenir l'ordre et surtout d'avoir un rapport avec la population. Parce que le plus important, c'est d'être dans un rapport avec la population et que les policiers connaissent les habitants et que les habitants connaissent les policiers. La confiance, elle ne peut exister que quand on connaît les personnes. Et donc là-dessus, évidemment, sur le mode opératoire, je pense qu'il y a un problème, puisque la question aujourd'hui de la police, c'est la question des banlieues, évidemment. Alors en revanche, je voulais juste ajouter sur la question de la défiance ou non, par ailleurs, la police, et ça les chercheurs le montrent de manière assez intéressante, si vous venez de vous prendre une prune, si vous allez remplir le formulaire, vous allez dire non, il faut tuer tous les policiers au monde. Si vous êtes dans un moment où vous avez l'impression que ça a favorisé un moment de sécurité, enfin, il y a aussi un rapport ambivalent. Alors oui, parce que la police a un travail qui est ambivalent, qui est compliqué.
Lydie Bantigny.
Bon, alors déjà, sur la question du sondage brandi par Brice Couturier, je pense que c'est justement une manière sans cesse d'alimenter, enfin de créer ces sondages. On sait très bien qu'ils sont quand même constitués et qu'à force justement de dire que, comme vous le faites, Brice Couturier, et c'est le cas quand même très très majoritairement dans les médias, c'est-à-dire le propos que vous tenez, c'est quand même un propos assez hégémonique dans le discours médiatique, évidemment que ça alimente cette idée-là d'une confiance généralisée dans la police. Et on sait aussi combien, par exemple, le point pour lequel vous travaillez avait un moment sorti un sondage dont la question n'était pas du tout tendancieuse, c'était est-ce que le syndicat CGT, par exemple, est un syndicat dangereux pour la France. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout une question tendancieuse. Donc,
ensuite, enfin, le CVPOF, a priori, c'est quand même pas tout à fait le même genre d'approche.
Quand vous dites que seuls les délinquants craignent la police, ça, en fait, ça signifie, par exemple, que vous considérez que tous les gens qui vivent dans des quartiers populaires et qui sont en permanence harcelés par, justement, des policiers, et encore une fois, moi, je voudrais vraiment distinguer des pratiques et un ordre politique. C'est-à-dire que les forces de l'ordre défendent un ordre et lequel. Je pense que c'est vraiment là qu'est la question fondamentale. Parce que pour ce qui concerne les pratiques, il y a à la fois des enquêtes très précises qui sont menées sur les violences, mais elles ne sont pas étendues à tous les policiers. Et ça, bien sûr, je m'inscris en faux contre l'idée que tous les policiers pratiqueraient ce genre de discrimination et de violence. Mais elles existent. Mais en revanche, ce qui me semble le plus fondamental, c'est encore une fois, quel ordre protège les forces de l'ordre? Et moi, je trouve que c'est un ordre qui est particulièrement violent, du point de vue démocratique, comme on l'a vu encore avec le 49-3, les manifestations interdites, pendant que les policiers, quant à eux, manifestaient sans aucune garde à vue à la clé, sans aucune assignation à résidence au nom de l'état d'urgence. C'est un système qui est de toute façon particulièrement violent par les abîmes d'inégalités absolument vertigineuses, le chantage. Enfin, voilà, on pourrait revenir vraiment sur ce qu'est la violence de cet ordre social-là. Et donc, il n'est pas étonnant que l'État utilise son bras armé pour maintenir cet ordre qui est en soi, à mes yeux, illégitime.
Alors, on est justement au cœur de la réflexion, c'est-à-dire quel ordre protège les forces de l'ordre? Je reprends votre expression, hein, Ludivine Bantigny, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? Comment est-ce que vous y répondriez, Sylvain Kahn?
Il me semble qu'il y a une dimension de cet ordre-là. Je ne saurais pas trop... comment qualifier avec un seul mot l'ordre en question, il y a sûrement plusieurs facettes. Moi, il y a une facette qui, en tous les cas, qui attire mon attention. Personnellement, c'est quelque chose que je ressens depuis longtemps. Et puis, il se trouve que récemment, je suis tombé sur les travaux d'un jeune collègue, Mathieu Rigouste. Et moi, cette intuition qui était la mienne depuis des années, c'est qu'il y avait comme un écho entre un certain nombre de pratiques policières dans des banlieues populaires vis-à-vis de populations majoritairement noires ou d'origine arabe. Ce qui a été rappelé tout à l'heure par Ludivine Bantigny, à savoir que le contrôle d'identité touche beaucoup plus les Français non blancs, pour dire les choses très rapidement, que les Français blancs. Bon, maintenant, c'est devenu quelque chose qui est dit, qui est documenté, etc. Il y a 15 ou 20 ans, ça l'était pas forcément, c'était pas forcément documenté. Les gens le disaient, mais on n'était pas obligé de les croire parce qu'on n'avait pas d'études. Et effectivement, et moi, à un moment donné, je me suis dit comme ça, bon, ben, c'est quand même marrant que ça arrive dans un pays comme la France, qui a un tel passé colonial et qui a une telle histoire coloniale avec le Maghreb, sachant que les Français d'origine arabe ou maghrébine sont, d'une manière ou d'une autre, en écho avec cette histoire coloniale-là. Bon. Et donc, alors, il y a au moins quand vous demandez, Hervé Gardette, à quel ordre ça renvoie, je pense que ça renvoie au moins à l'ordre postcolonial. Et les travaux de Mathieu Régousse, pour ça, sont très très éclairants. Hein. On peut évidemment les discuter et en débattre.
Voilà, on peut les discuter et en débattre, parce qu'il faut dire quand même que Mathieu Régousse, c'est un chercheur qui est assez engagé, en tout cas suffisamment engagé, pour avoir refusé, nous, une fois, de venir participer à un débat dans la mesure où il y avait un policier qui était autour de la table. Voilà, je fais
ça
juste cette petite
précision.
Ce qui n'enlève pas...
Il a été tabassé, il s'est retrouvé à l'hôpital pour plusieurs jours. Parce
ça n'enlève rien au fait qu'il fasse des travaux, voilà, et qu'il soit des travaux intéressants.
Ce que
je
veux dire,
aucun épisode de sa vie, je ne connais pas personnellement.
Et comme tous les chercheurs, il parle de quelque part. Brice Couturier.
Oui, alors l'ordre que protège la police, c'est l'ordre républicain, tout simplement. C'est pour ça que d'ailleurs les compagnies républicaines de sécurité s'appellent comme ça. Elles ont été créées par Jules Moc, un ministre socialiste de l'Intérieur, qui a défendu l'ordre républicain quand il était menacé par les subversions. Et effectivement, alors les gens qui ne se reconnaissent pas dans cet ordre républicain et qui rêvent d'une révolution et qui rêvent d'un autre ordre, évidemment, alors ceux-là, ils pensent que la police, c'est très négatif, parce qu'elle défend effectivement l'ordre républicain. Par ailleurs, j'aime pas beaucoup ce que j'entends sur les banlieues, parce que j'y vis, moi. Je sais pas si c'est votre cas à vous. Mais dans les banlieues, voyez-vous, les gens sont plutôt favorables à la police. Ce qui les harcèle, c'est plutôt les bandes, c'est plutôt les gens qui traînent en bas de leurs immeubles et qui les empêchent de rentrer chez eux. Et cela, ils aimeraient bien que la police soit un peu plus présente. Alors, contrairement à ce qu'on dit beaucoup autour de cette table, les banlieues ne sont pas hostiles à la police. C'est plutôt ces banlieues-là qui réclament un peu plus de police et qui trouvent très injuste, effectivement, l'ordre républicain, dans la mesure où les forces policières sont concentrées dans les beaux quartiers de Paris, où elles servent à garder la sécurité des gens qui ont la chance de pouvoir y vivre parce qu'ils ont l'argent pour le faire. Alors effectivement, l'injustice sociale, elle est plutôt là, voyez-vous, et non pas dans le fait que la police harcèlerait systématiquement les gens qui ont une certaine couleur de peau au nom de je ne sais quel ordre néocolonial qui régnerait dans nos banlieues.
Alors, l'argument sur la police républicaine, par exemple, vous voyez, c'est l'argument qu'utilisait Charles de Gaulle pour justifier le 17 octobre 1961, c'est-à-dire des centaines d'Algériens qui ont été jetés à la Seine et qui ont péri dans ce massacre. C'est aussi l'argument qui était brandi le 8 février 1962 par Maurice Papon à propos d'un massacre que l'historien Alain de Verpe a qualifié de massacre d'État. Voilà. Donc, si vous voulez, la police républicaine, c'est pas parce que vous allez brandir Jules Moc qui a été honni parce qu'il a été considéré
par
comme
vous
justement
non alors pas
non, non, par toute une tradition voyez dans le mouvement ouvrier etc. Il a été de fait honni, hein. Bon, voilà. Ensuite, ce que vous dites sur l'ordre, enfin voilà, vous pensez vraiment, par exemple, je vais vous dire d'une phrase qui j'espère n'est pas une formule, c'est que votre république, Brice Couturier, n'est pas ma république, votre république n'est pas la mienne. Quand j'entends François Fillon en ce moment réclamer l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans pour ceux qui l'appellent les voyous, on n'est pas très loin de la racaille, mais c'est lui qui nous dit ça. Moi, je pense que l'ordre et la violence sociale la plus importante, c'est pas quelques vitrines brisées, quelques vitrines de banque brisées à l'occasion de manifestations nassées par les policiers. Je pense que la véritable violence sociale, c'est l'évasion fiscale, c'est des gens comme François Pinault ou Bernard Arnault qui ont des montagnes d'argent sur lesquelles ils sont assis sans savoir quoi en faire, et c'est des gens sans chasse aux sorcières, n'est-ce pas, comme François Fillon qui prétend toujours lutter contre la voyoucratie, qui en fait, voilà, bien sûr, il est présumé innocent, n'est-ce pas, mais qu'il contribue quand même
Ludine,
à entériner.
On sort un petit peu du sujet.
Non, Ludine, pas du tout,
mais je veux quand même vous poser une question supplémentaire juste avant de redonner la parole aux autres.
L'ordre que défendent les forces de l'ordre.
Juste laissez-moi poser ma question suivante, parce que vous savez que ça passe très vite chaque vendredi. Juste pour comprendre, c'est-à-dire, pour vous, qu'est-ce que serait une police, on va dire, en tout cas des forces de l'ordre, qui serait légitime pour vous, c'est-à-dire qui ça serait des forces de l'ordre qui défendraient quel ordre?
Non, mais le problème, c'est que quand vous me dites que je sors du sujet, moi je ne pense pas, parce que justement la question qu'on a commencé à se poser, c'est en effet celle de cet ordre. Et donc moi j'essaie de vous décrire un peu comment je perçois cet ordre, et je suis loin d'être la seule, contrairement à ce que dit Brice.
Donc une police légitime qui défend.
Eh bien, c'est qu'il faut changer d'ordre, voilà. C'est-à-dire que et même, je ne sais pas si c'est le mot ordre qu'il faudrait employer à ce sujet, mais c'est-à-dire que voilà, il faut poser des questions politiques qui sont fondamentales et qui malheureusement, dans cette campagne électorale, ne le sont absolument pas. C'est-à-dire une justice sociale, une société qui serait beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus juste, qui mettrait le commun au centre de ses pratiques et qui, du coup, n'aurait pas forcément besoin de police. Voilà, tout simplement. Parce que des jeunes, voilà, vous pouvez les traiter de voyous si vous voulez. Moi, je comprends. Vous allez pouvoir me brandir. Enfin, je ne sais pas si c'est une question de salaire. Je pense que Brice-Couture n'est pas très, très bien placé pour parler forcément de la misère sociale. Mais voilà, mais simplement.
Et vous-même, vous l'êtes
Non, mais justement,
c'est
pour
poser
ça.
La question.
C'est pour ça. Non, mais attendez, je vous écoute.
Vous vivez où dans Paris exactement?
La première chose que j'ai dite, c'est que c'est presque gênant que ce soit justement des gens qui non seulement valident cet ordre social.
Lévine Bartigny, c'est aussi le principe du club des idées à laquelle vous n'avez pas accepté de participer.
Je répondrai par une attaque personnelle.
Non, mais cela dit, allez. Ça va pas tourner au pugilat entre vous deux parce que ça va devenir assez désagréable. Anastasia Colosimo et Sylvain Kahn et ensuite Brice Couturier.
Justement, en parlant de pugilat, je trouve que vous nous avez annoncé ce sujet il y a 3 jours et donc du coup j'ai passé 3 jours à quand même appeler des amis chercheurs qui travaillent sur le sujet, à appeler plusieurs amis qui avaient des avis tous très différents. Et ce qui m'a le plus interpellée, et pour avoir fait un stage aussi dans le 93 et pour avoir côtoyé quand même pas mal de policiers, donc d'avoir vu aussi cette réalité-là. Ce qui est terrible, c'est vraiment la généralité, quoi, la généralisation. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, apparemment, d'après ce qu'on nous raconte, on va voir ce que donne l'enquête, des policiers auraient violé un jeune homme. Si c'est le cas, il faut qu'ils soient évidemment condamnés immédiatement. Ce sont des brebis galeuses dans une corporation qui, par ailleurs, je trouve, ne nous fait pas complètement rougir non plus vis-à-vis à d'autres pays où les polices peuvent être beaucoup plus corrompues et beaucoup plus compliquées. Ensuite, on sait qu'il y a un problème dans les banlieues de conflits, effectivement, entre la population locale, qui est une partie de la population, et les policiers. Et enfin, tout ça existe, mais le problème, c'est toujours le moment où on arrive à la généralisation et on a l'impression qu'il faut choisir son camp. Or, en fait, justement, l'utilisation légitime de la violence par l'État, elle est légitime parce qu'elle est soumise elle-même au droit. Et donc, à partir du moment où ça dépasse le cadre du droit, à partir du moment où il y a un problème de justice, à partir du moment où il y a rupture d'inégalité, à partir du moment où il y a quelque chose qui sort du cadre légal, il faut que ça soit condamné. Et donc,
tant qu'on est dans les règles du droit,
le principe de l'état de droit, c'est qu'il se soumet lui-même au droit. Et donc, la violence légitime, c'est celle qui se soumet au droit. Il y a des règles, et tant que ces règles sont respectées, ça va. Si elles ne sont plus respectées, il faut que la sanction tombe. Alors évidemment, là, on a les complications. Les sanctions mettent énormément de temps à venir. Du coup, le conflit monte, etc. Elles sont effectivement pas toujours celles qu'on attend. Il y a des cafouillages. Tout ça est absolument étonnant. Il y a des problèmes. Le problème énorme, c'est cette idée qu'il faudrait choisir son camp ou qu'il y a une population contre une autre, qu'il y a une corporation contre... Bon, je pense que même en termes de discours politique d'ailleurs, et là, je m'interroge un peu sur le discours des politique, c'est pas très malin parce qu'en fait il faut être exactement toujours du côté du droit. Si ces policiers sont coupables, il faut qu'ils soient condamnés le plus vite possible pour ramener la paix sociale, parce que ce qui est important à la fin, c'est la paix sociale.
Et dans ce que vous avez entendu ces derniers jours, vous avez l'impression que justement les politiques n'ont pas un peu joué avec le feu?
Bah oui, parce que quand même toujours une ambiguïté. Même le ministre de l'Intérieur qui dit accident, alors enfin, comment il peut ne pas savoir que c'est un mot qui, si les faits s'avèrent vrais, est catastrophique. C'est pas un accident s'il y a eu effectivement un viol à la matraque. Donc, ça veut dire qu'il faut être extrêmement précautionneux. Il faut évidemment laisser la justice faire son travail. Il faut être sûr par ailleurs que cette justice fasse vraiment bien son travail. Mais c'est une question de justice, tout ça. Et à partir du moment où on commence à parler de groupe, pas de groupe, de corporation, pas de corporation, on se trompe et on le voit, puisque les policiers, c'est comme ça qu'ils répondent. À la tribune dont vous avez parlé dans Libération, les policiers ont répondu « Oui, mais nous aussi, on souffre. » Et en fait, cette escalade de « oui, mais nous aussi, on souffre », elle est terrible parce qu'elle ne résout rien, à aucun moment.
Sylvain Kahn.
Là, bien entendu, en raison de l'actualité, depuis 15 jours et ce soir, on parle de la police, alors que, bien entendu, il y a, je ne sais pas exactement comment la police est organisée, mais on comprend bien qu'il y a beaucoup de services dans la police. Et qu'il y a en fait des services et des activités policières qui correspondent à des situations, à des registres, et pour autant que je comprenne, qui correspondent à des types de criminalité. Ont été évoqués, par exemple, tout à l'heure, la délinquance en col blanc, La police, elle agit contre la délinquance en col blanc. Et là, quand elle fait bien son boulot, pour autant qu'on sache, on est tous très contents. Parfois, on voudrait qu'elle le fasse encore plus. Et pour autant qu'on sache, il n'y a pas de violence. Puisque le titre de l'émission, c'est « Le maintien de l'ordre légitime-t-il certaines violences ?»
Merci de le rappeler.
Donc, il me semble que les violences dont on parle, qui sont quand même des violences... qui sont des brutalités physiques, hein, sans même parler, disons, des violences symboliques qui ont pu être évoquées au début de cette émission. On a parlé d'humiliation sexuelle. On découvre, depuis une semaine, avec des témoignages qui commencent à sortir, que, comme on pouvait s'y attendre, quand on arrive à un tel degré de violence, en l'occurrence sexuelle, c'est certainement que il y a une situation ou une culture ou une sous-culture au sein de la police nationale française qui autorise ça. Alors, quand je dis cela, je ne dis pas toute la police est comme ci ou comme ça. Je dis, pour autant que je comprenne, que sur un certain type d'intervention liée à un certain type de territoire, liée à un certain type réel ou fantasmé, en tout cas, la police doit faire des enquêtes et c'est bien normal. Brice Couturier rappelait tout à l'heure que la violence spécifique à certains quartiers, elle existe et que les gens, là où elle existe, en ont ras-le-bol. Moi, j'ai vu le film Dipane, j'habite au centre de Paris, j'habite pas en banlieue. Grâce à la littérature ou au cinéma, j'arrive, et aux lectures de collègues chercheurs, j'arrive à prendre la mesure d'un certain nombre de réalités, même si je ne les vis pas personnellement. Donc, effectivement, moi, je considère que l'émission telle que vous l'organisez aujourd'hui, Hervé, c'est pour parler de ces violences liées à un certain registre d'activité policière dans un certain type de quartier. Voilà, je n'ai pas du tout le sentiment qu'on est là à dire toute la police est comme ci ou toute la police est comme ça. Bon, alors, pour moi, effectivement, la question, c'est comment se fait-il que un certain type de police dans un certain type de situation puisse générer, c'est pas tous les policiers qui sont comme ça dans tous les quartiers, dans toutes les banlieues, mais puisse générer et donc culturellement, me semble-t-il, tolérer ou subculturellement tolérer que ce type de pratique existe. Voilà.
Alors à cette question, il y a
un énorme
exemple,
problème.
Y a par
et c'est
exemple
pour
une...
ça que je faisais référence aux travaux de,
Mathieu
Rigouste, parce que pour moi, effectivement, voilà. Le fait qu'il y ait un ordre postcolonial qui soit de manière très circonscrite, il le démontre. Il démontre comment il y a des pratiques, finalement, qui, depuis des décennies et des décennies, sont quasiment transmises culturellement par rapport à un certain type de population.
Voilà
c'est ce que je dis.
Ça peut être une thèse. Une autre thèse peut être celle, effectivement, de la confrontation de populations qui ne se ressemblent pas et qui peut être problématique. Il y a une autre réponse qui peut être apportée. C'était dans le cadre d'un rapport fait par l'ONG ACAT. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Action des chrétiens contre la torture, qui a rendu un rapport en mars 2016 intitulé « L'ordre et la force, enquête sur l'usage de la force par les représentants de la loi en France » et qui disait notamment ceci. Les forces de l'ordre françaises jouissent d'une relative impunité lorsqu'elles sont responsables de violences qui violent les principes de proportionnalité et de nécessité, qui revenait à dire que finalement, on a aussi peut-être du mal en France à Brice Couturier, c'est-à-dire quand il y a des dérives qui sont faites par des policiers à pousser la remise en cause de ces pratiques jusqu'au bout.
Ben non, on est dans un état de droit, et dans un état de droit, les détenteurs de l'autorité publique, surtout quand ils ont l'usage légitime de la violence, doivent évidemment répondre de leurs actes et sont soumis à une réglementation extrêmement stricte. Et on le voit bien, puisque quand il y a des dérapages, ils sont punis. Tout le monde est d'accord pour qu'ils le soient. Je voudrais juste rappeler, puisqu'on parlait de quelques faits et quelques chiffres, je voudrais en rappeler un tout simplement. Savez-vous combien il y a de policiers qui sont blessés en mission chaque année? 12 000. 12 000 policiers en moyenne chaque année depuis maintenant 5 ans sont blessés en mission. Si on ajoute les gendarmes blessés en mission, on obtient le chiffre de 17 000 personnes. Vous savez, il y a un immense ras-le-bol dans la police. On s'en souvient plus parce que c'était il y a un mois et qu'une nouvelle chasse l'autre, mais il y a eu des manifestations de nuit organisées par les policiers furieux à la fin janvier après que 4 de leurs collègues aient été brûlés vifs au cocktail Molotov parce qu'ils étaient en charge de simplement de surveiller un équipement de vidéosurveillance à Aulnay-sur-Aulne, à Vitry-Châtillon. Viry Châtillon. Il y a un immense ras-le-bol de la police. Or, il faut comprendre que nous vivons sous des menaces terroristes et d'autres, et que nous sommes dépendants de l'ordre républicain. Nous sommes dépendants de la bonne volonté des policiers. Or, les policiers sont épuisés. Je prends cette déclaration de la présidente du syndicat des commissaires de la police nationale qui me va droit au cœur. Voilà ce qu'elle dit. Il y a chez les policiers dans ces quartiers un sentiment d'épuisement, de lassitude et parfois d'abandon. Eh bien, moi, en tant qu'habitant de ces quartiers, de ces banlieues, je souhaite que les policiers ne nous abandonnent pas.
Par rapport à ces manifestations d'exaspération et de fatigue que vous évoquez, Brice Couturier, il y a une réponse qui est une réponse législative. Il y a une loi qui vient d'être définitivement adoptée par le Parlement cette semaine, qui organise notamment l'alignement des règles de légitime défense sur celles des gendarmes, qui étaient plus larges que pour les policiers, qui prévoit notamment un doublement des peines pour outrage aux forces de l'ordre. Ça peut aller jusqu'à un an de prison. Juste d'un mot, Brice Couturier, est-ce que ce genre de réponse vous paraît être une bonne façon de répondre au problème qui est évoqué par les policiers?
Le fait, par exemple, qu'on a décidé d'armer les polices municipales aussi, hein, alors qu'il y a encore 3 ou 4 ans, on disait que ça serait scandaleux. On l'a décidé tout récemment, le Parlement vient de le décider. Donc, on voit bien qu'il y a une progression. Le fait que les policiers ne pouvaient pas se défendre, on a vu encore il n'y a pas très longtemps un policier attaqué dans sa voiture, ce type énorme, baraqué, etc., qui s'était attaqué, qui défendait sa collègue dans sa voiture, qui n'avait pas le droit de se servir de son arme. Il était effectivement en danger de mort, mais il n'avait pas le droit de se défendre. C'est inadmissible, évidemment, dans un état de droit, dans une démocratie, que les policiers ne puissent pas défendre leur propre vie, puisqu'ils sont là pour défendre les nôtres.
Lévin Martini.
Non, mais sur cette question du droit, encore une fois, le droit ne circonscrit pas le périmètre des violences. Et en fait, bien sûr que moi, je n'irai pas, par exemple, qu'il y ait des violences à l'égard des policiers. Mais la grande différence, c'est la manière dont ensuite ces violences, de part et d'autre, seront poursuivies. Parce qu'encore une fois, on pourrait refaire la liste de tous les acquittements, y compris, par exemple, celui du policier qui a tué d'une balle dans le dos Annie Ben Tutsi, voilà, il a été acquitté. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, il y aura le 19 mars, en pleine campagne électorale, et c'est tant mieux, une grande manifestation pour la justice et la dignité, hein, pour reprendre son terme. Et une autre chose à propos, de, encore une fois, de l'état de droit et de l'ordre qui est défendu. Moi, j'entends bien, Sylvain, qu'il y ait des délinquants en col blanc qui soient pourchassés. Ce qui n'est pas toujours le cas en réalité, parce que beaucoup arrivent à passer à travers des mailles du filet. Mais moi, ce n'est même pas ça que je vise quand je parle de l'ordre social. Ce n'est pas simplement les évadés fiscaux ou ceux qui se mettent dans l'illégalité. C'est la légalité de cet ordre-là. Si vous voulez, c'est le fait qu'il y ait des écarts. Non, mais je tenais à le souligner, parce que, évidemment, on peut répondre sur le fait que la police poursuit aussi les délinquants en col blanc. C'est juste, même si, à mon avis, les poursuites sont sans commune mesure, parce qu'encore une fois, les gamins qui s'en sont prêts à des policiers dans les situations que décrit Brice Couturier, qui sont en effet très graves, mais ils seront très, très gravement, très lourdement punis, condamnés, etc., ce qui n'est pas le cas de la plupart des policiers. Et pourquoi ? Parce que l'État a vraiment besoin de protéger son bras armé. Moi, j'ai en tête un événement qui s'est produit le 13 mars 1958, c'est-à-dire quand la 4e République était à l'agonie et qu'il y a eu des manifestations absolument illégales, entre guillemets, de policiers devant le Palais Bourbon, et qui, en fait, ont donné un coup de poignard définitif à la 4e République, parce qu'à partir du moment où la police se retourne contre son État, alors cet État est mort. Et donc, c'est la raison, à mon avis, le gouvernement actuellement, il est animé par deux principes. D'abord, il est absolument convaincu depuis très longtemps, comme ça a été rappelé par Sylvain Kahn, dans la culture politique d'une bonne partie du Parti Socialiste, qu'il faut insister sur la police et son ordre, d'une part, et d'autre part, parce qu'il a très peur aussi d'un lâchage de la part de l'institution policière, et c'est la raison pour laquelle il s'agit aussi de couvrir et de satisfaire toutes ces revendications, alors que, quand des centaines de milliers de personnes manifestaient contre la loi travail, ils se sont vus opposer des 49-3 et des violences, justement, anti-manifestations.
Anastasia Colosimo, pour conclure.
Je trouve que si on essaie de prendre un peu de perspective, pour le coup, historique et philosophique, il y a un exemple en France d'une histoire qui a déchiré la France, qui est l'affaire Dreyfus, et qui pose en d'autres termes la même question, puisque c'est toujours la question de la légitimité de l'État qui se pose. Si le bras armé fait défaut et se trompe et est dans l'erreur, qu'est-ce qu'on peut penser de l'État et quelle est tout d'un coup la légitimité de l'État? Il est évident que c'est pour cette raison que l'État défend toujours sa police. C'est organiquement, philosophiquement, en tout cas, la bonne raison. Mais ça nous... ça nous invite aussi à réfléchir philosophiquement à cette question-là et à savoir, évidemment, que à chaque fois qu'on parle de la police et à chaque fois qu'on parle de ces questions-là, on est sur des questions qui sont beaucoup plus profondes en termes de philosophie politique, en termes de théorie politique et aussi de la manière dont aujourd'hui on se représente l'État à un moment où cet État, en plus, est en crise.
Ben je pense que ça aura quand même transpercé une bonne partie de la discussion de ce soir, à laquelle je vous remercie d'avoir participé. Bon, je savais que ça serait un petit peu peut-être tendu par moment, mais en tout cas, merci d'avoir mené tous ensemble cette réflexion. Ludivine Bontini, Sylvain Kahn, Anastasia Colosimo et Brice Couturier. Un grand merci à l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer, Louise Fuseau, émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Pierrick Monsigny. Notre sujet lundi à partir de 18h20, le numérique peut-il sauver l'industrie? Dans un instant, vous allez retrouver Ping-Pong avec Mathilde Serrel et Martin Kénéen. Mais pour l'heure, c'est le rappel des titres.